Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le sujet de la laïcité, et en particulier la laïcité en milieu scolaire, à l'école, avec régulièrement dans l'actualité des questions sur l'interprétation, la mise en œuvre en particulier de la loi de 2004 qui proscrit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Anceau. Bonjour Éric.
Bonjour Alexis.
Vous êtes historien, maître de conférences habilité en recherche à Sorbonne Université, et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir dans l'émission aujourd'hui. Vous avez écrit un ouvrage cette année, « Laïcité en principe » aux éditions Passé Composé, et bien vous faites partie de ces historiens qui rappellent dans des publications, mais aussi dans des prises de position publique, finalement ce qu'est la laïcité à la française. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que malgré l'ancienneté des premières lois, hein, je rappelle la loi du 9 décembre 1905, et puis depuis il y a eu énormément de lois qui sont venues solidifier le socle de la laïcité à la française, pourquoi on continue à avoir autant de débats et autant de questionnements autour de cette laïcité à la française ?
Oui, merci. Alors vous m'avez fait le plaisir de rappeler le livre que j'ai publié en début d'année. C'est un livre qui resitue en fait la laïcité française sur le temps long d'une part et dans un cadre mondial d'autre part. Pour rappeler, Jean Bobéro et d'autres l'avaient fait avant moi, qu'il n'y a pas qu'en France que nous avons une laïcité. Mais cette laïcité française a ses spécificités en raison de notre histoire très particulière, des conflits qu'on a pu connaître tout au long de l'histoire entre deux France, une droite conservatrice, catholique, et une France qu'on qualifiera de plus progressiste, on dira, qui deviendra républicaine. Et nous avons connu également, vous le savez, dans notre histoire, des guerres de religion entre catholiques et protestants au XVIe siècle, particulièrement dures. Ça explique pourquoi, lorsque les républicains sont arrivés au pouvoir dans les années 1870, ils ont cherché à mettre en place des lois de laïcité pour pacifier en fait les relations entre les religions et l'État. Et effectivement, la pierre d'angle hein, de ces lois, c'est la loi, elle n'est pas la seule, hein, il y en a antérieurement, mais c'est la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État, qui a été depuis, je dirais, ajustée par d'autres lois, mais qui demeure la loi fondamentale en termes de laïcité en France.
Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, le moment fondateur, c'est la loi de 1905, dont d'ailleurs certains disent qu'elle aurait dû ou qu'elle pourrait être réaménagée au regard des enjeux contemporains. Moi, je voulais revenir aujourd'hui sur la question en particulier de la loi de 2004 et de sa mise en application. Aujourd'hui, il y a régulièrement, et c'était dans l'actualité il y a quelques jours, des signalements, donc semble-t-il, une plus grande difficulté à faire respecter cette loi de 2004 à l'école. Selon vous, dans quel contexte cela s'inscrit-il ?
Oui, alors vous le disiez, la loi de 1905, en fait, n'est qu'une étape. Aristide Briand, le rapporteur, l'auteur de cette loi, le disait lui-même. Et parmi les grandes lois qui l'ont modifiée, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a effectivement la loi du 15 mars 2004, et puis très récemment, sous Macron et Blanquer, une autre loi qui a été adoptée en août 2021, donc très très récemment. Alors la loi du 15 mars 2004 intervenait après, ça nous ramène 15 ans en arrière, l'affaire de Creil où il y avait eu des jeunes filles qui avaient porté un voile à l'école. Et
1989.
Voilà, 89, tout à fait, 1989. Et l'opinion publique s'était enflammée. Bayrou, qui était à l'époque, un peu plus tard, ministre de l'Éducation nationale, avait pris un certain nombre d'arrêtés, mais qui n'avait pas résolu la situation. Et finalement, Jacques Chirac avait décidé de légiférer. Et nous avons abouti à la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des ports, du port des
de tous les signes religieux, en vérité.
Exactement, à l'école. Alors, après, les choses se sont, quand on regarde objectivement ce qui s'est passé, les choses se sont nettement améliorées. c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins d'affaires, mais il est vrai que périodiquement, eh bien, resurgissent des problèmes liés aux religions et à l'école. Les deux camps, je dirais, se crispent un peu. Alors, il y a eu, vous vous souvenez, les affaires des cantines, il y a eu les affaires des sorties scolaires, et aujourd'hui, c'est l'affaire des abayas et des camis. C'est-à-dire, les camis, je le rappelle, ce sont les tenues longues que portent les hommes dans les pays arabo-musulmans. On parle aussi de dijdash, par exemple, dans certains. Et puis les abayas. Et les abayas, ce sont les tenues longues que portent les femmes. Effectivement, vous le signaliez, cette année, il y a une recrudescence des signalements scolaires par rapport à cette fameuse loi de mars 2004 et du port de vêtements en rapport avec la religion. De mémoire, 313 signalements rien que pour le mois de septembre, dont 54% sur le port de vêtements religieux, principalement donc ces abayas et ces camis. Et Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui lorsqu'il est arrivé, la laïcité n'était pas fondamentale pour lui, a pris la mesure de la situation. Il a évolué, a-t-il dit, par rapport à ce problème, et il n'a pas caché effectivement ce nombre de signalements.
Alors justement, on a quand même aussi des débats sur la mise en œuvre de la loi, parce que quand on écoute aussi les professionnels de l'école ou d'éducation nationale, ils disent finalement, tant qu'on est sur le port du voile, on a quelque chose qui est explicitement à connotation religieuse, donc on peut réguler. Exactement. Mais quand on rentre sur des sujets de port de vêtements, ils disent, ce qu'on nous demande finalement, c'est de faire un peu une police de la laïcité et de vérifier si tel ou tel vêtement ne correspond pas à une signification religieuse. Et ils disent, là, on est un peu plus en difficulté parce que c'est plus compliqué.
Ah ben exactement, vous avez entièrement raison. L'abaya et le camis, il faut le savoir, en terre arabe, préexistent en fait à l'islam. Ce sont des vêtements traditionnels, coutumiers. Alors simplement, là où les choses sont très compliquées, c'est que bien évidemment, quand on fait une analyse historique de temps long, ils ont été récupérés par l'islam, non pas dans le Coran, mais dans les hadiths, qui complètent donc le Coran. Il est dit, par exemple, que le camis est l'habit préféré du prophète Mahomet. Et puis, surtout, les abayas ont été bien utilisés par l'islam, parce que comme c'est un vêtement du corps, vous l'avez dit, très couvrant pour les femmes, ça correspond à certains préceptes musulmans. Alors, ça n'est pas traditionnellement musulman, mais c'est récupéré. Moi, vous savez, à la Sorbonne, il m'arrive d'aller très fréquemment à Abu Dhabi, où nous avons une Sorbonne, et donc les jeunes filles à la Sorbonne à Abu Dhabi portent l'abaya systématiquement. Ce qui ne les empêche pas d'avoir sous leur abaya des jeans, d'être maquillés, etc. Donc, vous voyez, là, on est dans un entre-deux. On est, je dirais, dans une zone grise. Je comprends parfaitement mes collègues du secondaire, parce que ce que leur demande le ministre, c'est en fait de regarder. Il y a eu une note qu'il a émise à la mi-septembre par le biais du pôle Valeurs de la République du ministère. Regarder si cette tenue est en lien avec le comportement religieux, s'il est porté régulièrement par les jeunes filles et pour le camis par les jeunes hommes, et puis s'il y a un refus de l'ôter. Et c'est très très compliqué à la fois pour les proviseurs, les principaux et les collègues du secondaire, parce qu'ils ne sont pas là pour comptabiliser sur chaque élève le port des vêtements et faire une police du vêtement. Donc là, vraiment, on est dans une zone grise qui me semble effectivement très compliquée.
Donc c'est tout un petit peu la difficulté de la mise en application de la loi et de ses interprétations, puisque la loi, évidemment, elle ne dit pas, c'est pas le rôle de la loi, précisément ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas porter dans une cour d'école. Elle donne des principes et puis après, il y a tout un tas de jurisprudence aussi, parce qu'on peut aussi avoir effectivement à un moment donné un habit qui n'est pas considéré comme, et puis finalement, quelques années plus tard, on a une autre interprétation, et c'est peut-être là-dessus que les professionnels disent, en fait, on est laissé un petit peu à notre libre arbitre.
Exactement. L'historien dira, il faut toujours recontextualiser et les phénomènes évoluent. Et là, on est parfaitement là-dedans. Quand on est neutre, qu'on essaie d'analyser les choses, bien évidemment, on le sait, hein, il y a un entrisme islamique dans les établissements scolaires, une volonté de provoquer. Dans quelques cas, dans ces affaires d'Abaya et de Camille, il y a derrière des frères musulmans, un certain nombre d'associations qui cherchent à provoquer et à voir jusqu'où la République va résister. Mais il y a aussi, et je pense que c'est dans l'immense majorité des cas, un phénomène de mode chez les jeunes. On sait comment ça fonctionne. Moi, j'ai un ado à la maison et puis j'ai une fille qui est plus âgée et qui a été elle-même scolarisée. Et ces phénomènes de mode, d'entraînement jouent aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très compliqué avec l'abaya et le camis.
Et de faire la part des choses.
Encore une fois, voilà, pour faire la part des choses. Donc, vous savez, Aristide Briand, je reviens à lui, donc le père de la loi de 1905, disait, voilà, on me demande d'interdire la soutane. À l'époque, c'était principalement les catholiques qui posaient problème. Mais ne soyons pas dupes, si nous interdisons la soutane, effectivement, ça c'est un vêtement qui est caractérisé dans la religion catholique pour les curés, après, les catholiques utiliseront un autre vêtement et le débat va se déporter. Donc je crois qu'il faut faire preuve de raison. C'est pas toujours facile hein, dans ces questions politico-religieuses, agir au cas par cas, mais là où c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas laisser non plus les enseignants seuls prendre les décisions. Il faut que voilà le gouvernement, le ministère soit peut-être plus clair, clarifie leur position encore.
Alors, vous avez dit qu'il y avait des études sociologiques qui montraient que la loi de 2004 avait permis à des jeunes filles d'aller au collège de manière émancipée. Et même qu'elles ont mieux réussi leurs études. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce qu'on a plutôt aujourd'hui le retour des jeunes femmes qui disent bah, « moi je suis obligé d'enlever mon voile, donc finalement c'est une contrainte ». Mais vous, ce que vous dites, c'est que finalement il y a aussi des jeunes filles qui ont bénéficié de cette interdiction des signes ostensibles à l'école.
Tout à fait. Alors là encore, il faut être mesuré. Il faut être honnête dans son approche, regarder les chiffres et les enquêtes sociologiques, je dirais, sérieuses. Alors, il y a deux choses, si vous voulez. On était inquiets, certains étaient inquiets en 2004. Et bon, moi, j'étais assez circonspect par rapport à la loi. Je me disais, il faut voir comment les choses vont évoluer. Parce que la crainte était, voilà, que les familles musulmanes retirent les jeunes filles des écoles publiques pour les mettre dans du privé confessionnel, musulman en l'occurrence, ce qui aurait contribué à accroître l'enfermement. Alors, il y a bien évidemment, il y a eu ces cas-là, mais il y a eu d'autres cas où ces jeunes filles, grâce à la loi, ont pu aller à l'école sans le voile. Et des études sociologiques qui ont été menées depuis, dans les années 2010, et il y en a une encore qui est apparue l'an dernier, ont montré, puisqu'on a le recul, ces jeunes filles maintenant sont dans la société professionnelle et on remarque qu'elles ont souvent de très très bonnes professions, qu'il n'y a pas de discrimination, si vous voulez, entre une jeune musulmane passée par des établissements publics et des jeunes femmes non musulmanes. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que là, il y a un, pardonnez-moi le terme technique, il y a un dimorphisme sexuel par rapport aux garçons. Les jeunes musulmans arrivent, eux, beaucoup moins bien à s'intégrer sur le marché du travail. Mais là, ça n'est pas lié au port du vêtement religieux. Donc, pour résumer, je dirais quand même que la loi du 15 mars 2004 a eu un effet doublement positif. Elle a pacifié les choses d'un point de vue de tension religieuse et elle a permis à de jeunes musulmanes de s'intégrer sur le marché du travail et d'obtenir de très très bonnes professions.
Alors, il faut se rappeler, mais vous l'avez dit, que finalement la loi de 2004, elle est le fruit d'un long processus qui a commencé notamment au moment des affaires de Creil autour du voile islamique hein, de 1989. Mmh. Et c'est vrai que beaucoup de musulmans disent en fait cette loi, elle veut interdire tous les signes, mais elle veut d'abord interdire les manifestations ostensibles de la religion musulmane. Et d'une manière générale, effectivement, il y a même dans les musulmans qui sont attachés aux principes républicains, ils ont souvent le sentiment qu'en France, il y a une crispation autour de cette question du port du voile.
Oui, alors on va pas se cacher ici et sur votre antenne derrière son petit doigt. Bien évidemment, c'était ce problème des voiles, des hijabs, hein, qui était fondamental dans la loi. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ce sont tous les signes et les vêtements religieux ou à connotation religieuse qui sont interdits par la loi du 15 mars 2004. Je vous rappelle par exemple que les kippas sont elles-mêmes interdites dans les établissements non confessionnels de la République, et les croix pectorales, c'est-à-dire que si un garçon ou une fille mettait sa croix, alors quand c'est un tout petit objet, non, mais quand c'est une croix trop visible, trop importante, eh bien on lui demande de le mettre sous son chandail ou sous sa chemise. Donc ça concerne toutes les religions. Hein.
D'accord. Non, mais je vous posais la question parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend dans les débats où effectivement il y a un tropisme autour de la religion musulmane et du fait que effectivement les lois de la laïcité aujourd'hui se sont construites aussi sur l'émergence de phénomènes qui avaient disparu, et notamment, vous l'avez très bien dit, on n'a plus beaucoup de gens dans la religion catholique qui portent des soutanes dans la rue, et c'est plus quelque chose qui se manifeste de manière extrêmement forte.
Mais vous savez, la laïcité, bon, beaucoup ont une image très négative de cette laïcité en disant elle est répressive et elle est tournée contre l'islam. Non, historiquement, elle n'est pas du tout tournée contre l'islam, puisque, encore une fois, quand les lois de laïcité ont été prises, l'islam, alors bon, il y avait déjà l'Algérie qui à l'époque était française depuis 1830, mais en métropole, il n'y avait pas ou quasiment pas de musulmans. Elle a été bien davantage prise contre, je dirais, une religion catholique qui luttait à l'époque contre la République. Et elle s'adapte, cette laïcité, à ce qu'elle perçoit et ce que perçoivent les gouvernements républicains comme un danger potentiel. Ce n'est pas encore une fois la religion musulmane qui est perçue comme un danger, c'est, bon, il faut faire la distinction je pense, l'islamisme et l'attitude qu'adoptent certains dans l'islam de provoquer la République à des fins, alors pour certains, bon, ils sont peu nombreux, hein, reconnaissons-le, de guerre civile, et d'autres tout simplement de troubles à l'ordre public. Vous savez, il y a cette notion d'ordre public dans la loi de 1905 qui est tout à fait fondamentale.
Merci Eric Anceau pour ces explications. Je pense que c'était un moment très important parce que ça permet aussi de remettre un petit peu les choses en perspective, mais c'est aussi ça votre métier d'historien, puisque je rappelle que vous êtes maître de conférence habilité en recherche à Sorbonne Université, que vous avez également écrit un ouvrage qui s'appelle « Laïcité en principe » aux éditions Passé Composé et qu'on peut toujours trouver dans toutes les bonnes librairies. Et que vous êtes également au comité éditorial de la revue Poétique et Parlementaire. Donc là, je crois qu'on a été extrêmement complet. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation.
Merci Alexis, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir aux auditeurs.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et après notre premier invité, j'ai le plaisir de recevoir Abdel Ali Mamoun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes imam et théologien, et c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir dans l'émission. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation, parce que on va continuer dans la deuxième partie de l'émission à parler de la laïcité et en particulier de la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une loi qui, régulièrement fait, alors pas toujours la une, mais enfin qui fait parler d'elle dans son application. Et on a eu encore récemment, au mois de septembre, des articles, des responsables politiques ou éducatifs qui se sont exprimés sur une hausse des signalements, en particulier au collège et au lycée, en lien avec le port de certains vêtements à connotation religieuse. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on est donc plus de 16 ans après le vote de la loi, régulièrement, on a comme ça des débats qui resurgissent dans la société française autour de tel ou tel aspect vestimentaire qui aurait une connotation religieuse.
Eh bien, tout simplement parce qu'on continue à nous importer des idées reçues d'une compréhension d'islam totalement fausse, qui est celle qui nous fait croire que s'habiller en vêtements arabes ou de tradition arabe ou subsaharienne ou autre serait un acte religieux, alors qu'aucun texte ne confirme et n'encourage ou ne conseille aux musulmans ou aux musulmanes de tenir une tenue qui aurait pour fonction de signaler leur appartenance religieuse à l'islam. Aucun texte, je répète, aucun texte religieux, et là je mets à défi n'importe quel imam de me contredire, et je suis sûr qu'ils vont tous aller dans mon sens, qui n'existe pas en islam, dans les textes, que ce soit le Coran ou la tradition prophétique, une injonction divine ou prophétique qui nous demande de signaler notre appartenance religieuse aux autres à travers un collier, un vêtement, un voile ou quoi que ce soit. Donc aucune tenue n'a pour fonction de signaler notre appartenance religieuse. Ça, c'est la première des choses. Donc, ces filles, ou même ces garçons qui pourraient venir avec des babouches ou avec des chichias ou avec des turbans sur la tête, ne seraient en conformité avec l'islam s'ils voulaient signaler leur appartenance en portant... D'abord, ça serait ostentatoire, et puis on sait que nous considérons l'ostentation comme un vice, c'est-à-dire un défaut comportemental que l'on doit essayer de soustraire de notre personnalité. Hein, l'ostentation est même un péché, et même le considérer comme le petit polythéisme, puisque l'islam est une religion qui a pour opposition le polythéisme et l'associationnisme, le shirk, comme on dit en arabe. Ou shirk al-asrar, al-riya, comme on dit en arabe, riya, c'est l'ostentation. Donc porter un vêtement ostentatoire pour signaler notre religiosité est déjà un péché en lui-même, en islam. Donc, on n'a pas à signaler notre appartenance religieuse. Maintenant, si une personne porte une tenue avec l'intention vraiment de s'habiller parce qu'elle veut avoir une bienséance, une tenue vestimentaire convenable, qu'elle considère comme étant convenable quand elle est à l'extérieur de chez elle devant des personnes étrangères, elle est en droit de choisir le vêtement qui lui semble de son goût. Et on n'a pas à se mêler du choix de chacun d'entre nous de s'habiller comme il veut, à condition que son intention ne soit pas motivée par une religiosité ou par le fait de signaler son appartenance à une religion. Et c'est cette intention-là ostensible qui est prohibée par la loi de 2004 et qui ensuite a été renforcée par une circulaire ministérielle afin que les chefs d'établissement intègrent un article interdisant les signes ostensibles d'appartenance à une religion au sein du sanctuaire de la laïcité qui est l'école publique. Et moi, je m'associe totalement à ce choix-là, puisque l'école publique n'a pas pour rôle ni à la fois de débaucher les jeunes filles ni de les enclaver dans des convictions religieuses. Elle est au contraire là pour cultiver l'esprit critique chez tous ces enfants qui la fréquentent, qu'ils soient musulmans, athées, chrétiens, juifs ou autres. Elle est là à l'école pour susciter l'esprit critique, l'esprit rationnel et transmettre des valeurs universelles à tous les enfants qui fréquentent cette école-là, quelle que soit leur conviction.
Alors, vous le savez, parce qu'on en a parlé avec notre historien, c'est vrai que cette loi de 2004, elle est venue après notamment les événements de Creil en 1989, où pour la première fois, des jeunes filles se revendiquant de la religion musulmane était venu portant un voile à l'école. Et à ce moment-là, effectivement, l'institution a été mise en difficulté, les politiques aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'années de débats. Et puis finalement, à l'issue d'un processus assez long, la loi du 15 mars 2004, elle est venue, si je puis dire, graver un peu dans le marbre une pratique qui se voulait être celle de l'école de la République, c'est-à-dire effectivement neutraliser les appartenances religieuses à la porte de l'école.
Alors, il existait déjà des cas sporadiques de jeunes filles qui portaient le voile, sauf que les chefs d'établissement n'y voyaient pas d'inconvénient, et c'est seulement à partir de Creil, quand ce proviseur a décidé de tirer la sonnette d'alarme, que le débat a commencé sur la question de
la société française,
des signes religieux. Moi, je rappelle d'abord à mes co-religionnaires cette chose importante qui est fondamentale. c'est que le voile n'est pas un signe religieux. Donc normalement, il ne devrait pas être interdit, puisque normalement, la musulmane ou le musulman qui porterait un vêtement quelconque ne devrait pas le porter avec l'intention de signaler son appartenance religieuse. Donc pourquoi inventer quelque chose qui fait polémique et qui est en même temps incompatible avec les préceptes de l'islam et l'obligation de la vertu d'austérité, la vertu de discrétion que doit avoir le croyant qui doit garder sa conviction dans la sphère privée. Pourquoi l'exhiber de manière ostentatoire dans l'espace public? On n'a pas à dévoiler comme ça nos convictions. Malheureusement, il y a des fréristes, des islamistes qui veulent islamiser le paysage, l'espace public, disant à ces femmes, allez au casse-pipe, porter des signes d'appartenance religieuse. Et c'est à partir de cette innovation de ces islamistes qu'a commencé toute cette polémique et qui a embrigadé ces jeunes filles à instrumentaliser l'islam à des fins politiques. Et c'est ça qui est dramatique. L'islamisme est le drame de l'islam. Il faut distinguer ces deux choses. L'islam est une valeur, est une religion qui apporte des valeurs morales et en même temps une spiritualité. Pour l'islamisme, c'est conquérir le monde en l'islamisant. Alors que ce que nous voulons, ce n'est pas islamiser la France, mais franciser l'islam, c'est-à-dire permettre aux musulmans de confession musulmane de s'intégrer paisiblement dans l'espace et dans le paysage français.
Alors, c'est vrai que, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de prescription religieuse, et pour autant, vous l'avez remarqué, il y avait moins de jeunes filles qui portaient le voile il y a quelques années. Alors, est-ce que c'est lié à des influences? Oui, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres explications? Les effets de mode, il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent jouer. Le fait qu'on est amis avec des gens qui, entre jeunes filles, on s'incite mutuellement pour se soutenir. Enfin, il y a peut-être plusieurs motifs qui font qu'effectivement, le sentiment dominant, c'est qu'il y a plus de jeunes filles ou de jeunes gens qui veulent afficher leurs convictions religieuses à travers le port d'un vêtement, d'un foulard, d'une tenue.
En effet, le facteur socio-psychologique ou psycho-sociologique qu'on appelle plus précisément l'influence clanique, de faire partie d'un clan, d'une bande de filles ou de garçons qui se rebellent un petit peu contre le système pour se démarquer. Et comme on dit nous en arabe, khalif to arab, c'est-à-dire distingue-toi, tu te feras remarquer. Si tu cherches à te valoriser, ce n'est pas en ayant un apport pertinent et constructif dans la société, mais pour eux c'est la manière facile, la manière feignante et paresseuse qui consiste à non pas à travailler pour apporter quelque chose de bien qui me démarquera et me permettra d'être prix Nobel par exemple de telle ou telle science, mais tout simplement de me rebeller en instrumentalisant une pratique qui n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, si c'est leur intention, eh bien, je la condamne. Et pour celles qui, au contraire, ont été embrigadées parce qu'elles ont été endoctrinées par des imams qui se disent référents de l'islam et qui leur ont dit cette tenue est une obligation et qu'elles doivent le porter, ok, qu'elles le portent si elles le désirent dans l'espace public, rien ne leur interdit, mais à partir du moment qu'elles rentrent dans ce sanctuaire sacré qui est l'école, elles devront enlever tous ces signes qui sont considérés comme étant ostensiblement religieux. Alors, et si elles ne veulent pas, c'est au chef de l'établissement d'agir tout simplement et d'utiliser les moyens
que leur donne la loi,
pour sanctionner, pour avertir, pour mettre des avertissements et pour que ces filles-là arrêtent leur petit jeu, parce qu'il s'agit souvent d'abord d'un jeu puéril et une démarche un peu rebelle et provocatrice.
Alors, ce qui est très intéressant dans la période, c'est de comparer des situations, évidemment qui ne sont pas comparables, mais qui font réfléchir, c'est qu'on voit aujourd'hui une situation dans un pays musulman, un grand pays musulman comme l'Iran, où il y a un refus de l'obligation du port du voile, qui est une obligation d'État, et les jeunes femmes enlèvent leur voile pour montrer, par provocation vis-à-vis du régime, et pour se rebeller contre une loi qu'elles estiment injuste. Et à l'inverse, c'est ce que vous nous expliquez, en France, c'est plutôt l'inverse. Il y a des jeunes filles qui portent un voile pour se démarquer et aussi pour montrer une forme de liberté par rapport aux institutions, pour se rebeller par rapport au système. C'est assez étonnant quand même quand on compare les situations.
Il est bien de faire cette comparaison, bien entendu, et c'est dommage pour ces filles-là qu'elles soient dans cette démarche dans laquelle, d'une certaine manière, elles soutiennent un petit peu ce régime qui, je rappelle encore une fois, est incompatible avec les textes religieux, puisque nous considérons, nous, les sunnas, c'est-à-dire les sunnites du monde musulman, que les moullahs ont spolié l'islam des mains de Dieu. Hein, ils se sont accaparés le pouvoir divin en décrétant des lois divines et en imposant de manière contraignante, par la contrainte, les lois divines, alors que le Coran est clair, explicite en la matière, non contrainte en religieux. Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais Dieu guidera qui il veut, et tu ne seras pas un dominateur, et j'en passe, et des meilleurs de versets dans le Coran qui interdit aux musulmans, à la communauté musulmane et aux gouverneurs musulmans, s'il y en avait un, d'imposer la religion aux citoyens. C'est par l'éducation qu'ils doivent pouvoir le faire et par leur plein gré. S'ils ne le portent pas parce que ils ne le veulent pas, on ne peut pas sanctionner par une loi le fait de ne pas de ne mais je condamne de la même manière ces laïcars qui ont légiféré des lois pour punir dans l'espace public toute personne qui aborderait des tenues qui aurait une apparence religieuse. Chacun doit rester libre. La valeur universelle de la liberté de conscience doit être applicable à la fois en Iran, mais aussi en Occident, qui eux sont dans l'autre extrême, en sanctionnant par exemple celles qui auraient envie de porter un voile intégral. Je ne suis pas pour le port du voile intégral, bien entendu, mais je suis pour la liberté. La liberté, toute personne doit avoir la liberté de s'habiller comme il veut. Et si elle porte un voile intégral, il faut se remettre en cause et dire que c'est un échec de la société qui n'a pas fait son travail quand il a fallu expliquer à ces jeunes musulmanes que ça n'est pas ça l'islam et que ça n'est pas ça que de vivre sa liberté de conscience. Et ça n'est pas en légiférant des lois, sanctionnant d'une amende de 135 euros une jeune femme qui va porter un voile intégral parce que ça sera moins de lait, moins de nourriture qu'elle va pouvoir acheter pour ses enfants. Et souvent, ces femmes-là, qui sont sous la pression de certains maris, et ça existe, hein, il peut y en avoir, eh bien, sont dans des situations souvent, contraignantes financièrement. Mmh. Et qu'est-ce que l'on fait? On vient encore plus serrer la corde autour de leur cou avec ces amendes. C'est complètement absurde. Des deux côtés, je condamne. L'Iran qui impose le port du voile et la France qui interdit ou qui impose le fait de ne pas porter de telle ou telle manière de s'habiller. Il faudrait tout simplement foutre la paix à ces femmes. Foutons-leur la paix, laissons-les s'habiller comme elles veulent. Celles qui ont envie de porter un voile, elles portent un voile. Celles qui veulent porter un voile intégral, elles doivent... Et si on pense que c'est pas une bonne chose, c'est par la parole, c'est par l'éducation, c'est par l'exhortation que doit se faire ce travail.
Et non pas par
des lois mouftis qui sanctionnent les personnes qui s'habilleraient de telle ou telle manière.
On a bien entendu votre message, c'est pas par la contrainte que les choses doivent passer.
Il y a un raccourci malheureusement qui est fait entre ce tissu qu'elles portent sur la tête et le terrorisme, qui est très, très, très malsain. C'est quoi ça? Ah oui, mais regardez, il y a des terroristes. Mais quel rapport avec les filles qui portent le voile? C'est ces filles-là qui deviennent des terroristes.
Il n'y a aucun rapport.
Il est vrai qu'il y a un début, il y a un canal qui tend vers le séparatisme, vers le repli communautaire, vers la rébellion contre la société, vers l'isolement de cette composante religieuse vis-à-vis de la communauté nationale. Et ça, c'est un mauvais début. Pour promouvoir l'intégration de l'islam dans le paysage français. On n'a pas besoin de ces fatwas qui nous viennent de je ne sais où en Arabie Saoudite ou ailleurs pour nous expliquer comment comprendre nos textes. Nous, chaque pays a ses propres référents. Mais malheureusement en France, nous n'avons pas de référents religieux, ou du moins nous avons une multitude de références religieuses, souvent liées à la fois à des mouvances ou aussi liées à des pays d'origine. Nous avons les mouftis turcs, les marocains, les algériens, les tunisiens, les subsahariens, et puis vous avez les salafistes, les tablir, les frères musulmans, les soufis, les chiites, et les chiites, etc. Donc c'est tout un problème qui rend les choses extrêmement complexes.
Bien sûr, et je voulais vous poser une dernière question, parce que ça me paraissait important d'en parler avant de terminer notre émission. C'est que certains musulmans considèrent que la laïcité à la française les vise ou les discrimine. Or, c'était intéressant, c'est que notre historien Éric Ranceau rappelait que à l'origine de la laïcité, et en particulier la loi du 9 décembre 2005, c'était une loi qui visait plutôt la religion catholique et son emprise sur la société ou sur l'État, puisque c'est la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Et donc, effectivement, les mêmes préceptes qui ont été appliqués aux catholiques, aux juifs, aujourd'hui s'appliquent aussi aux musulmans.
Non, mais sauf que là, on veut imposer aux musulmans une laïcité, non pas de l'État, de l'administrateur, mais de l'administré. C'est-à-dire que les citoyens lambda, on veut imposer une neutralité non pas à l'État et à ses institutions, mais on veut imposer une neutralité aux administrés, c'est-à-dire aux citoyens lambda, ce qui est bien entendu incompatible avec la laïcité.
Absolument.
La laïcité, c'est la liberté justement de l'administré, c'est-à-dire
et la liberté de croyance, la liberté de croire.
Des croyants, du commun des croyants ou du non-croyant, de s'habiller comme il le veut et de pratiquer et de choisir la foi qu'il veut. Il est là, il y a un abus de cette compréhension de la laïcité, non pas pour permettre l'égalité de traitement entre tous les citoyens, c'est ce qui est le principe de la laïcité, puisque la laïcité n'est pas une valeur républicaine à proprement dite, puisque nous avons trois, mais elle intègre une des trois qui est l'égalité. Elle intègre l'égalité et la liberté aussi, la liberté conscience, qui est un des sens de la laïcité, mais aussi l'égalité de traitement de tous les citoyens en droit et en devoir, quelle que soit leur conviction. Le juif n'aura pas d'avantage par rapport au chrétien, ou le chrétien vis-à-vis du musulman, etc., par rapport au service public, parce qu'il est de telle ou telle conviction religieuse. C'est ça la laïcité, c'est d'abord ça. Et il faut que les gens comprennent bien qu'ils ne peuvent pas instrumentaliser la laïcité à des fins de vouloir athéiser, hein, parce qu'on confond souvent, et c'est malheureusement récupéré par les fréristes, hein, les frères musulmans, qui considèrent, parce qu'ils traduisent le terme laïcité par ilmania, qui est le scientisme, c'est-à-dire l'athéisme, pour dire que la laïcité est incompatible avec la foi musulmane et elle est considérée même comme un blasphème. La laïcité est antinomique avec la foi musulmane. Alors que c'est faux. Moi-même, je peux vous dire en tant qu'imam que je suis un musulman laïque, c'est-à-dire un musulman qui souhaite que l'État reste neutre et que nous, citoyens, devons pouvoir avoir le droit de choisir les convictions que l'on veut. Et que cette laïcité auquel j'adhère est exactement compatible avec les préceptes que Dieu m'a révélés dans mon texte, puisqu'il dit non contrainte en religion. Je ne peux pas imposer une religion à quiconque. Et que cette contrainte-là ne peut pas se manifester par une différence de traitement entre tel et tel citoyen. Qu'il soit musulman, je le traiterai bien, et que si ce n'est pas un musulman, il sera traité autrement. C'est totalement faux que de penser que l'islam est dans cette logique-là. Au contraire, elle accorde les mêmes droits et les mêmes devoirs, quel que soit le choix. Et le jugement se fera par Dieu, pour nous, dans nos convictions, selon le dogme musulman, se fera le jour de la résurrection, et non pas par les humains sur terre, en sanctionnant par des amendes, par des sanctions, par des emprisonnements, par des jugements du calife ou de je ne sais quel dirigeant qui aurait un pouvoir pour imposer la loi de Dieu sur terre. Ça n'est pas vrai. Personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun doit garder, et ça je vous parle de ce que dit l'islam, pas de ce que dit Rousseau, Voltaire ou Diderot. Non, je vous parle des préceptes de l'islam. Et ça, il faut que les musulmans l'intègrent bien dans leur esprit, mais aussi les non-musulmans. Que d'abord, tout simplement, et qu'ils comprennent bien, il n'y a pas de signe religieux. Donc vous ne pouvez pas interdire une fille qui porte un voile qu'elle est parce qu'elle le porte comme signe religieux. Si elle le fait avec cette intention-là, c'est sûr que on doit lui interdire. Mais ça n'est pas un signe religieux, c'est une règle vestimentaire qui a été comprise par des savants comme étant une obligation, parce que c'est une règle vestimentaire, et non pas une signe, une fonction de signaler son appartenance religieuse.
C'est comme merci Abdel Ali Mamoun.
Voilà.
On vous a bien compris. On a eu le temps de débattre et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Et
je salue tous vos auditeurs de Radio Orient. Et je vous souhaite une bonne
continuation. Ils auront apprécié de pouvoir vous écouter dans l'émission. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.